Deux jours après avoir lu cette réponse, elle fut obligée de prendre une nourrice. Son lait tarissait. Après avoir fait un dieu de son frère, elle le voyait dépravé par l'exercice des plus belles facultés. Enfin, pour elle, il roulait dans la boue. Cette noble créature ne savait pas transiger avec la probité, avec la délicatesse, avec toutes les religions domestiques cultivées au foyer de la famille, encore si pure, si rayonnant au fond de la province. David avait donc eu raison dans ses prévisions. Quand le chagrin, qui mettait sur son front si blanc des teintes de plomb, fut confié par Ève à son mari dans une de ces limpides conversations où le ménage de deux amants peut tout se dire, David fit entendre de consolantes paroles. Quoiqu'il eût les larmes aux yeux en voyant le beau sein de sa femme taré par la douleur, et cette mère au désespoir de ne pouvoir accomplir son œuvre maternelle, il rassura sa femme en lui donnant quelques espérances. « Vois-tu, mon enfant, ton frère a péché par l'imagination. Il est si naturel à un poète de vouloir sa robe de pourpre et d'azur. Il court avec tant d'empressement aux fêtes. Cet oiseau se prend à l'éclat, au luxe, avec tant de bonne foi, que Dieu l'excuse là où la société le condamne. Mais il nous tue, s'écria la pauvre femme. Il nous tue aujourd'hui comme il nous sauvait il y a quelques mois en nous envoyant les prémices de son gain, répondit le bon David, qui eut l'esprit de comprendre que le désespoir menait sa femme au-delà des bornes, et qu'elle reviendrait bientôt à son amour pour Lucien. Mercier disait dans son tableau de Paris, il y a environ 50 ans, que la littérature, la poésie, les lettres et les sciences, que les créations du cerveau ne pouvaient jamais nourrir un homme. Et Lucien, en sa qualité de poète, n'a pas cru à l'expérience de 5 siècles. Les moissons arrosées d'encre ne se font, quand elles se font, que 10 ou 12 ans après les semailles, et Lucien a pris l'herbe pour la gerbe. Il aura du moins appris la vie. Après avoir été la dupe d'une femme, il devait être la dupe du monde et de fausses amitiés. L'expérience qu'il a gagnée est chèrement payée, voilà tout. Nos ancêtres disaient, pourvu qu'un fils de famille revienne avec ses 2 oreilles et l'honneur sauf, tout est bien. L'honneur, s'écria la pauvre Ève, hélas, à combien de vertus Lucien a-t-il manqué? Écrire contre sa conscience, attaquer son meilleur ami, accepter l'argent d'une actrice, se montrer avec elle, nous mettre sur la paille. Oh, cela ce n'est rien, s'écria David qui s'arrêta. Le secret du faux commis par son beau-frère allait lui échapper, et malheureusement, Ève, en s'apercevant de ce mouvement, conserva de vagues inquiétudes. « Comment rien ? » répondit-elle. « Et où prendrons-nous de quoi payer 3 000 francs ?»« D'abord, reprit David, nous allons avoir à renouveler le bail de l'exploitation de notre imprimerie avec Cérizet. Depuis 6 mois, les 15% que les Cointet lui allouent sur les travaux faits pour eux lui ont donné 600 francs, et il a su gagner 500 francs avec des ouvrages de ville. » Si les Cointet savent cela, peut-être ne recommenceront-ils pas leur bail. Ils auront peur de lui, dit Ève, car Cérizet est un homme dangereux. Eh, que m'importe, s'écria Séchard. Dans quelques jours, nous serons riches. Une fois Lucien riche, mon ange, il n'aura que des vertus. Ah, David, mon ami, quel mot viens-tu de laisser échapper? En proie à la misère, Lucien serait donc sans force contre le mal. Tu penses de lui tout ce qu'en pense Monsieur d'Arthez. Il n'y a pas de supériorité sans force et Lucien est faible. Un ange qu'il ne faut pas tenter, qu'est-ce? Eh, c'est une nature qui n'est belle que dans son milieu, dans sa sphère, dans son ciel. Lucien n'est pas fait pour lutter, je lui épargnerai la lutte. Tiens, vois, je suis trop près du résultat pour ne pas t'initier aux moyens. Il sortit de sa poche plusieurs feuillets de papier blanc de la grandeur d'Aline Octavo, les brandit victorieusement et les apporta sur les genoux de sa femme. Une rame de ce papier, format grand raisin, ne coûtera pas plus de 5 francs, dit-il en faisant manier les échantillons à Ève, qui laissait voir une surprise enfantine à l'aspect d'une si petite chose apportée comme preuve de résultats si grands. À une question de sa femme, qui ne savait pas ce que voulait dire ce mot grand raisin, Séchard lui donna sur la papeterie des renseignements qui ne seront point déplacés dans une œuvre dont l'existence matérielle est due autant au papier qu'à la presse. Le papier, produit non moins merveilleux que l'impression à laquelle il sert de base, existait depuis longtemps en Chine quand, par les filières souterraines du commerce, il parvint dans l'Asie mineure, où vers l'an 750, selon quelques traditions, on faisait usage d'un papier de coton broyé et réduit en bouillie. La nécessité de remplacer le parchemin, dont le prix était excessif, fut trouvée par une imitation du papier bombycien, tel fut le nom du papier de coton en Orient, le papier de chiffon. Les uns disent à Bâle, en 1170 par des Grecs réfugiés, les autres disent à Padoue, en 1301, par un Italien nommé Pax. Ainsi, le papier se perfectionna lentement et obscurément. Mais il est certain que déjà, sous Charles VI, on fabriquait à Paris la pâte des cartes à jouer. Lorsque les immortels Faust, Coster et Gutenberg eurent inventé le livre, des artisans, inconnus comme tant de grands artistes de cette époque, approprièrent la papeterie aux besoins de la typographie. Dans ce 15e siècle si vigoureux et si naïf, les noms des différents formats de papier, de même que les noms donnés aux caractères, portèrent l'empreinte de la naïveté du temps. Ainsi, le raisin, le Jésus, le colombier, le papier pot, l'écu, le coquille, le couronne, furent ainsi nommés de la grappe, de l'image de notre Seigneur, de la couronne, de l'écu, du pot, enfin du filigrane marqué au milieu de la feuille, comme plus tard, sous Napoléon, on imite un aigle. D'où le papier dit « grand aigle ». De même, on appela les caractères Cicéro, Saint-Augustin, Gros Canon, des livres de liturgie, des œuvres théologiques et des traités de Cicéron, auxquels ces caractères furent d'abord employés. L'italique fut inventé par les Halles, à Venise. De là son nom. Avant l'invention du papier mécanique, dont la longueur est sans limite, les plus grands formats étaient le grand Jésus ou le grand colombier. Encore, ce dernier ne servait-il guère que pour les atlas ou pour les gravures. En effet, les dimensions des papiers d'impression étaient soumises à celles des marbres de la presse. À l'époque où Séchard cherchait à résoudre le problème de la fabrication du papier à bon marché, l'existence du papier continu paraissait une chimère en France, quoique déjà Denis Robert d'Essonne eut, vers 1799, inventé pour le fabriquer une machine que depuis Didot Saint-Léger essaya de perfectionner. Le papier vélin, inventé par Ambroise Didot, ne date que de 1780. Ce rapide aperçu démontre invinciblement que toutes les grandes acquisitions de l'industrie et de l'intelligence se sont faites avec une excessive lenteur et par des agrégations inaperçues, absolument comme procède la nature. Pour arriver à leur perfection, l'écriture, le langage peut-être, ont eu les mêmes tâtonnements que la typographie et la papeterie. Des chiffonniers ramassent dans l'Europe entière les chiffons, les vieux linges, et achètent les débris de toute espèce de tissu, dit Séchard à sa femme en terminant. Ces débris, triés par sorte, s'emmagasinent chez les marchands de chiffons en gros qui fournissent les papeteries. Pour te donner une idée de ce commerce, apprends mon enfant qu'en 1814, le banquier Cardon, propriétaire des cuves de Buges et de Langlais, où Léorier de Lille essaya dès 1776 la solution du problème dont s'occupa ton père, avait un procès avec un sieur Proust à propos d'une erreur de 2 millions pesants de chiffons dans un compte de 10 millions de livres, environ 4 millions de francs. Le fabricant lave ses chiffons et les réduit en une bouillie claire qui se passe, absolument comme une cuisinière passe une sauce à son tamis, sur un châssis en fer appelé forme, et dont l'intérieur est rempli par une étoffe métallique au milieu de laquelle se trouve le filigrane qui donne son nom au papier. De la grandeur de la forme dépend alors la grandeur du papier. « Eh bien, comment as-tu fait ces essais ?» dit Eva David. « Avec un vieux tamis en crin que j'ai pris à Marion, » répondit-il. « Tu n'es donc pas encore content ?» demanda-t-elle. La question n'est pas dans la fabrication. Elle est dans le prix de revient de la pâte, car je ne suis qu'un des derniers entrés dans cette voie difficile. Madame Masson, dès 1794, essayait de convertir les papiers imprimés en papier blanc. Elle a réussi, mais à quel prix? En Angleterre, vers 1800, le marquis de Salisbury tentait, en même temps que Séguin en 1801 en France, d'employer la paille à la fabrication du papier. Une foule de grands esprits a tourné autour de l'idée que je veux réaliser. Dans le temps où j'étais chez messieurs Didot, on s'en occupait déjà comme on s'en occupe encore. Car aujourd'hui, le perfectionnement cherché par ton père est devenu l'une des nécessités les plus impérieuses de ce temps-ci. Voici pourquoi. Le linge de fil est, à cause de sa cherté, remplacé par le linge de coton. Quoique la durée du fil, comparée à celle du coton, rende, en définitive, le fil moins cher que le coton, comme il s'agit toujours pour les pauvres de sortir une somme quelconque de leur poche, ils préfèrent donner moins que plus et subissent, en vertu du va et victis, des pertes énormes. La classe bourgeoise agit comme le pauvre. Ainsi, le linge de fil va manquer et l'on sera forcé de se servir de chiffons de coton. Aussi, l'Angleterre, où le coton a remplacé le fil chez les 4/5 de la population, a-t-elle commencé à fabriquer le papier de coton. Ce papier, qui d'abord a l'inconvénient de se couper et de se casser, se dissout dans l'eau si facilement qu'un livre en papier de coton s'y mettrait en bouillie en y restant un quart d'heure, tandis qu'un vieux livre ne serait pas perdu en y restant 2 heures. On ferait sécher le vieux livre. Et quoique jauni, passé, le texte en serait encore lisible. L'œuvre ne serait pas détruite. Nous arrivons à un temps où, les fortunes diminuant par leur égalisation, tout s'appauvrira. Nous voudrons du linge et des livres à bon marché, comme on commence à vouloir de petits tableaux, faute d'espace pour remplacer de grands. Les chemises et les livres ne dureront pas, voilà tout. La solidité des produits s'en va de toutes parts. Aussi, le problème à résoudre est-il de la plus haute importance pour la littérature, pour les sciences et pour la politique. Il y eut donc un jour, dans mon cabinet, une vive discussion sur les ingrédients dont on se sert en Chine pour fabriquer le papier. Là, grâce aux matières premières, la papeterie a, dès son origine, atteint une perfection qui manque à la nôtre. On s'occupait alors beaucoup du papier de Chine, que sa légèreté, sa finesse rendent bien supérieurs aux nôtres, car ses précieuses qualités ne l'empêchent pas d'être consistant. Et quelque mince qu'il soit, il n'offre aucune transparence. Un correcteur très instruit, à Paris, il se rencontre des savants parmi les correcteurs. Fourier et Pierre Leroux sont en ce moment correcteurs chez la Chevardière. Donc, le comte de Saint-Simon, correcteur pour le moment, va nous voir au milieu de la discussion. Il nous dit alors que, selon Kempfer et Duhalde, le broussonatia fournissait aux Chinois la matière de leur papier tout végétal, comme le nôtre d'ailleurs. Un autre correcteur soutint que le papier de Chine se fabriquait principalement avec une matière animale, avec la soie, si abondante en Chine. Un pari se fit devant moi. Comme messieurs Didot sont les imprimeurs de l'Institut, naturellement, le débat fut soumis à des membres de cette assemblée de savants. Monsieur Marcel, ancien directeur de l'imprimerie impériale, désigné comme arbitre, renvoya les deux correcteurs par devant monsieur l'abbé Grosier, bibliothécaire à l'Arsenal. Au jugement de l'abbé Grosier, les correcteurs perdirent tous deux leur pari. Le papier de Chine ne se fabrique ni avec de la soie, ni avec le broussonatia. Sa pâte provient des fibres du bambou trituré. L'abbé Grosier possédait un livre chinois, ouvrage à la fois iconographique et technologique, où se trouvaient de nombreuses figures représentant la fabrication du papier dans toutes ses phases. Et il nous montra les tiges de bambou, peintes en tas dans le coin d'un atelier à papier supérieurement dessiné. Quand Lucien m'a dit que ton père, par une sorte d'intuition particulière aux hommes de talent, avait entrevu le moyen de remplacer les débris du linge par une matière végétale excessivement commune, immédiatement prise à la production territoriale, comme font les Chinois en se servant de tiges fibreuses, j'ai classé tous les essais tentés par mes prédécesseurs en les répétant. Et je me suis mis enfin à étudier la question. Le bambou est un roseau. J'ai naturellement pensé au roseau de notre pays. Notre roseau commun, l'Arundo phragmitis, a fourni les feuilles de papier que tu tiens. Mais je vais employer les orties et les chardons, car pour maintenir le bon marché de la matière première, il faut s'adresser à des substances végétales qui puissent venir dans les marécages et dans les mauvais terrains. Elles seront à vil prix. Le secret gît tout entier dans une préparation à donner à ces tiges. En ce moment, mon procédé n'est pas encore assez simple. La manœuvre n'est rien en Chine. Une journée y vaut 3 sous. Aussi, les Chinois peuvent-ils, au sortir de la forme, appliquer leur papier, feuille à feuille, entre des tables de porcelaine blanche chauffées, au moyen desquelles ils le pressent et lui donnent ce lustre, cette consistance, cette légèreté, cette douceur de satin qui en font le premier papier du monde. Eh bien, il faut remplacer les procédés du Chinois par quelques machines. On arrive par les machines à résoudre le problème du bon marché que procure à la Chine le bas prix de sa main-d'œuvre. Si nous parvenions à fabriquer à bas prix du papier d'une qualité semblable à celui de la Chine, nous diminuerions de plus de moitié le poids et l'épaisseur des livres. Un Voltaire relié, qui sur nos papiers vélins pèse 250 livres, n'en pèserait pas 50 sur papier de Chine. Et voilà certes une conquête. L'emplacement nécessaire aux bibliothèques serait une question de plus en plus difficile à résoudre, à une époque où le rapetissement général des choses et des hommes atteint tout, jusqu'à leurs habitations. À Paris, les grands hôtels, les grands appartements seront tôt ou tard démolis. Il n'y aura bientôt plus de fortune en harmonie avec les constructions de nos pères. Quelle honte pour notre époque de fabriquer des livres sans durée. Encore 10 ans, et le papier de Hollande, c'est-à-dire le papier fait en chiffon de fil, sera complètement impossible. Je veux y aviser, et donner à la fabrication du papier en France le privilège dont jouit notre littérature, en faire un monopole pour notre pays, comme les Anglais ont celui du fer, de la houille ou des poteries communes. Je veux être le Jacquard de la papeterie. Eve se leva, mue par un enthousiasme et par une admiration que la simplicité de David excitait. Elle ouvrit ses bras et le serra sur son cœur en penchant sa tête sur son épaule. « Tu me récompenses comme si j'avais déjà trouvé, » lui dit-il. Pour toute réponse, Ève montra sa belle figure toute inondée de larmes et resta pendant un long moment sans pouvoir parler. « Je n'embrasse pas l'homme de génie, » dit-elle, « mais le consolateur. À une gloire tombée, tu m'opposes une gloire qui s'élève. Au chagrin que me cause l'abaissement d'un frère, tu opposes la grandeur du mari. Oui, tu seras grand, comme les grains d'orge, les rouvés, les vanrobés, comme le persan qui nous a donné la garance. » Comme tous ces hommes dont tu m'as parlé, dont les noms restent obscurs parce qu'en perfectionnant une industrie, ils ont fait le bien sans éclat.